my co-chair.
C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette séance des nouvelles cibles pour le développement de drogue. Je suis du Nigeria. Nous avons 3 conférenciers. Je suis Monsieur Adewale. Chaque conférencier aura 25 minutes de temps de présentation. Il y aura une séance de questions de 5 minutes suivant chaque communication. Premièrement, notre premier conférencier, Dr. Warner Green, qui est un professeur de médecine à l'Université de Californie à San Francisco. Il est directeur fondateur du Gladstone Institute of Immunology. Le Gladstone Institute est un centre de recherche voué à la recherche de la biologie avec une concentration sur le VIH-SIDA. Il est diplômé de l'Université Stanford, Washington University School of Medicine et travaille au National Cancer Center in Duke University Medical Center. La communication de Dr. Drake, ce sera les interactions des virus cellulaires comme cible pour le développement de nouveaux médicaments VIF. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les organisateurs pour m'avoir offert cette occasion de vous présenter ma communication. Alors, je vais vous parler de l'axe VIF-APOBECG3G comme un nouveau cible, une nouvelle cible. Chacun d'entre nous, nous produisons un facteur antiviral qui pourrait potentiellement enrayer le VIH. C'est le APOBEC3G. Alors, quel est le APOBEC3G? C'est un facteur antiviral, non seulement contre le VIH, mais toute une panoplie. C'est une acétylamidase qui appartient à des enzymes de mutation DNA, ADN, ARN, y compris APOBEC1 et AID. Nous croyons que l'incorporation virionique a été proposé à titre de prérequis pour son activité antivirale. Je vous démontre aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Alors, APOBEC3G est dans le virion avec les protéines capsides de virus. L'inclusion du APOBEC3G dans ce virion le rend non infectieux. Et le mécanisme, il y a une transcription inversée dans la prochaine cellule. Lorsque la partie moelle et dioxytazidine qui sont présentes sont déaminées par la APOBEC3G, les convertissant dans du dioxyuridine. La dioxyuridine nous donne un gabarit pour faire le lien entre les brins. Ou s'il y a une transcription inverse, il y a une hypermutation AAG qui peuvent altérer les séquences de codage. Alors, puisqu'il y a des propriétés très puissantes d'APOBEC3G, pourquoi sommes-nous témoins d'une épidémie, VIH? Très simplement, parce que VIH, le gène VIF, l'utilise pour neutraliser l'APOBEC3G. Le VIF est une protéine qui est exprimée très tard dans le cycle. Eh bien, la question se pose, comment on fait pour contrer les effets antiviraux d'APOBEC3G? Nous savons maintenant, en partie, grâce à des recherches d'une de mes étudiantes, Kepsopec, elle a pu démontrer que le VIF a deux actions particulières, combinées au APOBEC3G, et peut accélérer la dégradation du facteur antiviral dans le 3S et aussi peut inhiber de façon modérée la synthèse de nouveaux protéines APOBEC3G. L'effet combiné nous donne une déplétion intracellulaire complète d'APOBEC3G, alors il n'y a plus de facteur antiviral qui est incorporé dans le nouveau virion et ces virions demeurent toujours infectieux. Par la suite, plusieurs collègues ont démontré que le VIF arrive à dégrader l'APOBEC3G en recrutant un complexe ici qui vient médier le complexe. Bien comprendre la base moléculaire par laquelle vif va cibler la PoBac 3G. Il y a une question du public. S'attache à APOBEC 3G. Alors essentiellement, nous avons une cible potentielle pour une découverte d'une nouvelle drogue antivirale. L'interaction est de plus en plus répandue. Nous savons que le vif APOBEC 3G, nous savons que les terminaux interagissent et qu'une seule mutation des acides aminés au changement ou substitution de position 128 peut complètement changer la spécificité pour voir si APOBEC vient lier le vif VIH ou d'un virus siméen. Alors, il est intéressant de considérer la possibilité de pouvoir interférer dans cette interface et protéger les niveaux intracellulaires de APOBEC 3G et ainsi permettre la APOBEC 3G d'être incorporée dans le virion où il pourra avoir une hypermutation dans le virus et tuer le cycle de reproduction. Bon, alors j'imagine que ça, tout le bruit vient d'à côté, là. Alors, voici une illustration. Alors, le vif qui est lié au APOBEC 3G avec une dégradation de la protéasome. Et l'idée, c'est qu'avec des nouvelles techniques, on peut identifier des petites molécules qui vont bloquer l'assemblage du vif à l'APOBEC 3G ou qui, potentiellement, pour que le recrutement du vif du complexe ligase qui est nécessaire. Alors, c'est quelque chose d'un domaine très actif, et surtout que les compagnies pharmaceutiques s'y intéressent énormément, car on veut avoir une détection précoce pour avoir peut-être des indices et qu'on pourrait avoir une nouvelle classe thérapeutique pour des médicaments anti-VIH. Maintenant, une partie de notre étude pour la APOBEC 3G, ce qui nous intriguait, c'était le fait qu'on avait compris que le vif pouvait combattre la présence dans le virion, mais chaque fois qu'il y a une cellule qui a été ciblée et tuée, c'est dans un environnement qui est plein de APOBEC C3G. Alors comment se fait-il qu'on ne voit pas ce même phénomène dans l'APOBEC 3G, dans l'intravirion? On se demandait s'il n'y avait pas une régulation négative dans les cellules. Alors, deux étudiants post-doc ont fait ces études et elles ont trouvé que l'APOBEC 3G est recruté dans une masse moléculaire très élevée, beaucoup plus grand un monomère ou dimère de l'enzyme. Maintenant, si on traite ce complexe d'APOBEC 3G avec d'ANR, on aurait quelque chose avec une masse moléculaire plus faible qui est plus conforme aux enzymes. Et lorsqu'on fait un biodosage pour une activité enzymatique, leur capacité de déaminité, on trouve que la masse élevée d'APOBEC n'a pas l'activité enzymatique nécessaire, tandis que celle qui est moins élevée est complètement active. Alors, APOBEC 3G est inactivé par des cellules T, car recrutées dans ces complexes à masse moléculaire élevée, et l'activité est inhibée en partie, paraît-il, par son association à l'ANR. On a pu ainsi répondre à une grande question. Pourquoi est-ce que le VIH ne peut pas infecter les autres cellules T? Eh bien, APOBEC 3G est un joueur clé. On pensait que les cellules T dormantes n'étaient pas affectées parce qu'elles ne pouvaient pas se reproduire. Mais en fait, c'est que ces cellules dormantes sont en train de projeter une défense antivirale puissante dans la forme d'APOBEC 3G, dans la masse moléculaire faible, qui malheureusement est abandonnée lorsque la cellule T est activée et l'APOBEC 3G est recrutée par la masse élevée. Alors, lorsqu'on a étudié ces cellules dormantes, on a trouvé que l'APOBEC 3G travaillait surtout dans la masse moléculaire faible. Et ce qui active ces cellules T avec les cytokines, on voit que la majorité de l'APOBEC 3G est dans le complexe de masse moléculaire élevée, très résistante à l'infection VIH, et celles-ci le permettent. Mais, bien entendu, il fallait pouvoir démontrer qu'en réduisant l'expression de l'APOBEC 3G dans ces cellules dormantes, qu'on pouvait rendre ces cellules pour pouvoir recevoir l'infection, pour voir si c'était efficace. Alors, nous avons fait le test et on a fait un test, on a provoqué pour mesurer l'infection en mesurant la chaleur de surface. Alors, le succès, une infection réussie est ici parce qu'on a des événements de flux qu'on a ici dans le petit carré. Alors, non stimulé, les cellules dormantes, donc, qui sont très résistantes à l'infection VIH, mais si on les active avec PHA et autres permettent l'infection. Maintenant, si vous introduisez un siRNA qui n'est pas conforme, les cellules demeurent très résistantes à l'infection VIH. Maintenant, si on diminue l'expression de l'APOBEC 3G, on peut faire en sorte que les autres cellules dormantes vont devenir infectées. Alors, nous soumettons que la masse faible d'APOBEC 3G, un monomère de l'enzyme, fonctionne comme un facteur de restriction post-facteur. Et cette action n'est pas contrée par le vif, car il n'y a presque pas de vif dans le virion et le cycle n'est pas assez développé pour créer d'autres protéines vives. Alors, ici, ce bloc post-entrée d'APOBEC 3G est également efficace contre les formes delta vif. Mais ce bloc post-entrée peut changer lorsqu'il y a des macrophages, parce que l'APOBEC 3G va être recruté dans cette masse moléculaire élevée, donc en ouvrant la porte à une infection VIH. La grande majorité des infections VIH sont présentes ou se retrouvent dans des cellules dormantes. Le virus vient exploiter cette occasion qui est créée par le recrutement de l'APOBEC 3G dans cette masse complexe élevée pour pouvoir venir infecter seulement la population de cellules actives. Alors, ceci a soulevé, on voulait savoir plus quelle est la fonction de ces APOBEC 3G dans la cellule. Il doit y avoir quelque chose d'important qui s'opère ici. Car la production de ces complexes font en sorte que la cellule est tellement vulnérable à une infection VIH. Alors, on a purifié toutes les composantes protéinées dans les masses moléculaires élevées. Alors, vous avez les mesures ici. Alors, on voit la tache ici. Alors, tout ce gel-là a été suctionné avec une spectrographie de masse. Et après ça, des tests en tandem, et on a pu identifier plus de 95 protéines qui étaient dans cette masse moléculaire élevée. Alors, voici la liste. Évidemment, je vous fais grâce des éléments, mais c'était une liste époustouflante, toute une variété de protéines. Et on voulait savoir s'il y avait une correspondance quelque part. Et évidemment, la réponse était oui. Et ce complexe de protéines est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un Stauffen-containing RNA granules. Donc, alors, moi, je me suis posé la question, mais c'est quoi ça? Alors, des complexes plus grands que 10 mégadaltons qui jouent un rôle clé dans la localisation et la régulation de la traduction des ARN, bien étudié en drosophiles, les embryons drosophiles et dans les neurones de Mies. Alors, il se déplace vers les endroits d'une stimulation électrique et là, il y a une traduction qui se fait qui forme des changements dans la plasticité des synapses. Et ce qui a tout à voir avec l'apprentissage et la mémoire. Mais quels sont les ARN présentes dans cette l'APOBEC 3G? à masse moléculaire élevée. Eh bien, on a trouvé deux des éléments génétiques mobiles qui ont été décelés. Je vais vous parler de ces composantes. Nous savons que ces rétrotransposants, des gènes, et leur activité est 100 fois moindre dans l'humain que chez la souris. Les souris ont un seul gène ApoBec 3, mais les singes et les humains en ont 8 qui ont été accrus en nombre grâce à la duplication tandem. Les gènes ApoBec ont été soumis à une grande évolution, une mutation non synonyme suggérant qu'il y a eu beaucoup de pression sélective. Et nous suggérons que ces changements étaient évidents même avant l'émergence de l'antivirus, suggérant que ce n'était pas le moteur non plus. Mais on se demande si l'ApoBec est impliqué dans limiter cette activité. Si on regarde ces éléments transposables, on a les transposons et les retrotransposons. Il y en a avec beaucoup de répétitions longues et d'autres courtes. Celui LTR, ce sont les rétrovirus endogènes. Et dans les non-LTR, nous avons des grandes composantes qu'on appelle LAN, qui sont autonomes, qui font coder leurs propres éléments dans les nucléus. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les 5, qui sont non-automanes, qui ne vont pas coder leur transcription inverse. L'élément le plus fréquent est celui qu'on appelle ALU. Alors, il y a toute une variété d'études, alors je vous fais grâce de tout ça, qui implique les 8 membres de la famille des ApoBec pour contrôler les rétrovirus endogènes dans le système chez la souris. ApoBec 3G n'a jamais pu démontrer que c'était impliqué dans la régulation des éléments de LIN 1 ou SIA 2. Et en fait, le premier ANR qu'on avait retrouvé, c'était le ALU. ARN, pardon. Alors, c'est un des rétrotransposants les plus réussis qui représente 10,5% de notre génome humain. Les événements de rétrotransposition ALU sont fréquents apparaissent dans une de 100 naissances, avec une fréquence qui a commencé à diminuer il y a 40 ou 50 millions d'années. Alors, nous avons trouvé les ALU, on a trouvé les éléments primaires ici et le petit format cytoplasmique. Le deuxième ARN qui a été identifié, c'était un élément des petits ARN. Alors, une nouvelle classe de éléments de rétrotransposables non autonomes dépendants de L1 qui ont été identifiés dans l'ApoBec 3G dans cette partie de masse moléculaire élevée. Alors voici l'amplification. On a ALU, HY1, l'ARN tiré de ce complexe. Alors si on purifie, dans l'absence de ApoBec 3G, on n'a pas ces éléments de... Mais ici, tout à coup, on a ALU et HY qui sont recrutés à l'extension des crénules, suggérant que l'ApoBec est peut-être en train de reconnaître ces éléments rétro et en train de les guider, les diriger vers le staphon qui contient les granules ARN. Il y a un enrichissement de 20 à 100 dans ces granules si on les compare au l'intensité du signal ARN. Vous le voyez ici, c'est bien illustré, mais ces granules ne vont pas se lier n'importe où. Il y a toute une variété d'ARN cellulaires. Il n'y a aucune preuve que l'ARN sont présentes dans les granules de Starfall. À un autre point, ces éléments ALU ou HY n'étaient pas particulièrement présent dans les cellules dormantes, mais toutes les composantes protéiniques d'un granule stoféniques étaient là dans ces cellules dormantes. Alors, si on regarde ici, on voit, nous suggérons en ce moment-ci que ce sont des facteurs nucléiques qui vont créer l'assemblage de cette masse nucléaire grâce au phénomène de liage. Afin de faire la preuve, APOBEC 3G fait la contre-réglementation de la transposition. On a travaillé avec le laboratoire Heidmann en France. On a utilisé un biodosage. Je vous donne pas tous les détails ici, mais c'est quelque chose d'assez fascinant qui nous permet de déceler les événements en choisissant des colonies résistantes. Et ce que nous avons trouvé, c'est que la présence d'APOBEC 3G avait un effet inhibitoire sur la rétrotransposition. Ici, on voit des effets liés à la dose, clairement à l'écran, pour inhiber la rétrotransposition. Et les versions non enzymatiques d'APOBEC 3CG avaient la même inhibition contre la transposition à loup. Nous avons proposer que le mécanisme, ce n'est pas une hypermutation de l'ARN, c'est une séquestration plutôt des ARN du cytoplasme dans les granules stophones qui ne permettent pas l'accès aux éléments de line 1 et sa machinerie afin de compléter la transcription inverse. Ici, l'élément allo qui a été marqué est recruté à l'APOBEC 3G. Ce complexe à masse moléculaire élevée n'est pas recruté au granule Stauffen. Mais si vous purifiez Stauffen en présence de APOBEC 3G en trans, on voit allo est recruté à cette masse moléculaire élevée. Alors, en sommaire. Dans ces cellules dormantes, APOBEC 3CG existe dans ce complexe de masse moléculaire faible réduit l'activité VIH. Alors, c'est pour ça que ces cellules ne sont pas infectées par le rétrovirus. Et lorsque ces cellules sont activées, il y a plusieurs choses qui se passent. On voit l'expression des éléments mobiles endogènes, y compris allo et HY, l'expression de ces ARN et leur association avec APOBEC 3G va déclencher l'assemblage de l'APOBEC 3G complexe. Et ces complexes se forment afin de répondre à la menace présentée par les rétro-transpondeurs allo et HY. Malheureusement, puisque la masse moléculaire faible doit remonter à la masse élevée, ouvre la porte à une infection VIH, donc une réplication complète du cycle. Alors, une des idées, ce serait d'avoir des inhibiteurs qui pourraient bloquer la récrétion de cette masse moléculaire faible ou promouvoir son désassemblage. Mais on ne veut pas complètement bloquer cet assemblage en masse moléculaire élevée, car sa fonction est quand même importante. Mais on aimerait quand même chercher un équilibre entre la masse élevée et la masse faible. Si on pouvait conserver l'APOBEC 3G en masse moléculaire faible dans la cellule, tout en ayant un peu d'APOBEC 3G en masse moléculaire élevée, on pourrait avoir cette même résistance dans cette cellule dormante qu'on retrouve dans ces cellules dormantes. Alors, j'aimerais conclure. J'aimerais remercier l'NIH, le Center for AIDS Research, pour avoir financé nos études sur l'APOBEC 3G, et je serai heureux de répondre à vos questions à ce moment-ci. Merci.
Microphone number two. That's you, sir.
Oh, oui, sir.
Alors, micro numéro deux, c'est à vous. Plus tôt, vous avez parlé le terminal N de la protéine VIF comme une cible. Quelles seraient les conséquences si c'était trop difficile et on utilisait le terminal de la protéine ApoBec3G pour empêcher le liage? Ben, je crois que les terminaux interagissent. L'idée, c'est d'avoir des petites molécules qui vont empêcher cette interaction, qui laisserait ApoBec3G, qui ne serait plus ciblée pour la dégradation. Alors, l'idée est tout simplement de protéger ApoBec3G de la dégradation qui est exécutée par le VIF qui se lie. Mais ça, c'est une petite approche moléculaire, pas de peptide. Parce qu'on veut avoir quelque chose qui soit biodisponible par voie orale pour être donné aux patients. Merci. Bon, encore les deux questions qui restent. Micro numéro 3. UCLA, est-ce que vos conclusions, ce qu'on voit, le blip qu'on voit dans la charge virale, et quand il y a un vaccin, il y a les cellules T, il y a une activation des cellules T qui va créer plus de cellules qui vont permettre l'infection VIH. Alors oui, ça pourrait jouer un rôle. Une dernière question du micro numéro 2. Vous l'avez peut-être dit, lorsque l'ApoBec est dans le complexe de masse moléculaire élevée, est-ce que vous avez une preuve que c'est tout simplement une séquestration des éléments allo ou est-ce que c'est autre chose? Il n'y a pas d'activité enzymatique de l'ApoBec dans ce complexe. Et on est en train de faire la séquence des éléments allo pour voir. Mais c'est pas quelque chose qu'on anticipe. On peut utiliser des agents, des enzymes qui ont été, qui ont mué, les recruter dans la masse moléculaire élevée et tout à fait efficace pour inhiber la rétrotransposition. Alors, on ne croit pas que ce soit un phénomène de mutation.
Alors, merci beaucoup, Dr. Green. Alors, j'ai le privilège maintenant de vous présenter le Dr. Eric Cohen. Il est un professeur de neurologie à l'Université de Montréal et est directeur de leur laboratoire de rétrovirologie humaine. Il a une chaire du Canada en rétrovirologie. Il a des diplômes de l'Université de McGill et de Montréal. Il a eu un fellowship postdoctoral à l'École médicale de Harvard et travaille sur le VIH-SIDA depuis 1996. Sa recherche a permis de découvrir deux protéines VIH. La question qu'il va répondre aujourd'hui, c'est peut-on identifier de nouvelles cibles virales? Dr. Cohen. Eh bien, merci. Alors, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir invité à participer à ce symposium. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est parler de l'interaction hôte cellule VIH qui contrôle le choix d'assemblage et de dissémination pendant l'infection et discuter de la possibilité d'utiliser cette interaction comme cible pour de nouveaux médicaments antiviraux. Alors, l'assemblage VIH1 et le bourgeonnement est un processus séquentiel qui implique le ciblage de composantes virales à un assemblage membranaire et site de bourgeonnement. Le GAG, le précurseur de la protéine, joue un rôle central dans ce processus, étant donné que l'expression du GAG sans autres protéines virales peut diriger la formation de particules virales. Le précurseur de polyprotéique du GAG joue un rôle central et est clivé par la protéase virale pendant la maturation virale. Il consiste de trois domaines d'assemblage. Le premier domaine, c'est le domaine M, qui est très important pour le ciblage du GAG au site d'assemblage et de bourgeonnement et fait la médiation des associations GAG aux membranes lipidiques. Le domaine I médie la multimérisation du GAG et le domaine L fait la médiation de la dernière étape de la morphogenèse de la particule virale, c'est-à-dire la fission de la particule virale de la membrane par l'interaction avec le TSG-101, une cellule protéique qui est impliqué dans la formation des vésicules internes et dans ce qu'on appelle les corps mésivésiculaires ou les MVB. Effectivement, dans le travail de Wes Hubquist et d'autres, le bourgeonnement VIH dépend d'une machinerie de la cellule hôte très complexe consacrée à la formation de vésicules internes dans des corps multivésiculaires qu'on appelle des exosomes et à la sélection de cargaisons qui doivent être exocytosisées de la cellule. GAG est l'interaction du GAG avec le TSG 101 à travers une séquence PICTAP dans l'abdomen du GAG recrute une série de complexes SCAR1, SCAR2 et SCAR3 qui dirigent la formation de particules virales et la fission des particules virales dans un processus qui est topologiquement très semblable à la formation d'exosomes. Donc, même si ces complexes sont requis pour la production virale, il n'est pas clair s'ils fonctionnent au niveau des corps multivésiculaires ou à la membrane plasmatique ou aux deux endroits. À ce niveau-là, une caractéristique intrigante de l'assemblage VIH1 est que différentes membranes peuvent agir comme plateforme pour l'assemblage viral. Par exemple, dans les lymphocytes de type T ou dans la plupart des lignées cellulaires transformées humaines, la majorité du GAG cible ou est ciblée à la membrane plasmatique, même si nous pouvons détecter aussi du GAG dans des emplacements internes à la cellule. En contraste, dans les cellules comme les macrophages, les bourgeons de VIH1 se trouvent surtout dans des compartiments intracellulaires et ces compartiments intracellulaires correspondent aux corps multivésiculaires puisqu'ils expriment des marqueurs MVP, y compris du MHC classe 2, du CD63 LAMP1 et LPA, qui est un lipide qu'on trouve exclusivement dans les membranes internes des corps multivésiculaires. Mais le mécanisme qui contrôle le choix d'assemblage viral et de site de bourgeonnement est mal compris. Par exemple, les routes précises par lesquelles le GAG atteint la surface cellulaire ou l'accumulation d'état stable est inclair, de même que les choix qui contrôlent les sites de bourgeonnement viraux ne sont pas bien définis. Donc, quelle est la voie par laquelle le GAG atteint la membrane plasmatique ou l'accumulation à l'équilibre de MVB? Il y a deux voies non mutuellement exclusives qui peuvent être proposées pour expliquer l'accumulation de GAG à l'équilibre dans différents types de cellules. Dans le premier modèle, le site de ciblage GAG, d'assemblage et de diffusion dépend du type de cellule. Dans certaines cellules, le GAG va cibler la membrane plasmatique sans interaction avec les MVB. Tandis que dans des cellules comme les macrophages, le GAG va cibler les MVB là où l'assemblage et le bourgeonnement vont se produire. La diffusion des virus dans le milieu extracellulaire peut procéder par un processus d'exocytose qui est contrôlé dans les macrophages. Dans le deuxième modèle, le GAG est ciblé d'abord au corps multivésiculaire dans tous les types cellulaires. Dans des cellules comme les lymphocytes, le virus contenant des MVB va être exocytosisé de façon constitutive. Donc, à l'équilibre, la majorité du GAG va être située à la membrane plasmatique. Dans les macrophages, le GAG va s'accumuler dans les MVB, étant donné que l'exocytose est régulée. Dans le troisième modèle, le GAG est ciblé d'abord à la membrane plasmatique et l'accumulation de GAG va provoquer un processus d'internalisation de la membrane cellulaire au MVB par un processus d'endocytose. Et la diffusion de la particule, la libération de la va se produire par exocytose. Donc, Andrés Finzi, Alexandre Ortwein et Joanne Mercier dans mon laboratoire ont démarré des études pour étudier ou tester ces différents modèles et est-ce qu'il y a un problème? Ça va? Donc ce qu'ils ont fait, ils ont suivi le mouvement du GAG dans des cellules, des lymphocytes type T où la majorité du GAG s'accumule à la membrane cytoplasmique à l'équilibre, mais dans lesquels on peut aussi détecter du GAG dans les compartiments internes, en fait, dans les MVB. Donc, ils ont regardé le mouvement dynamique du GAG en combinant une analyse de Paul Chiss-Liebling avec un fractionnement subcellulaire. Donc, pour localiser le GAG à différentes périodes, ils ont développé un test de fractionnement subcellulaire en utilisant un gradient OptiPEP. Donc, lorsqu'ils ont analysé par microscopie électronique les différentes fractions, ils ont pu démontrer que... Est-ce que je peux reculer d'une diapo, s'il vous plaît? Une autre diapo. Voilà. Donc, dans la fraction à faible densité au sommet du gradient, ils ont découvert qu'on avait surtout des fragments de membrane cytoplasmique. Mais au fond du gradient, dans la fraction à densité élevée, il y avait un enrichissement de structures lamellaires et multivésiculaires qui étaient très semblables au MVB. Donc, nous avons davantage caractérisé cette fraction en utilisant un Blot-Wesson et on a pu démontrer que les protéines bio-assimilées de surface, le récepteur de transférine de 44 degrés, sodium, potassium, TPA, niveau cytoplasmique, et tout a été détecté dans des fractions en haut du gradient. Aucun de ces marqueurs qui sont spécifiques à la membrane cytoplasmique, mais qui n'ont été trouvés en bas du gradient. À l'opposé, lorsque nous avons testé les marqueurs comme le CD63, l'HLA-DR, le LAMP1 et une enzyme, la bêta-hexosaminidase, nous avons détecté ces marqueurs dans la fraction au milieu du gradient, mais ces marqueurs étaient aussi enrichis dans la fraction de haute densité au fond du gradient. Donc, en utilisant ce fractionnement subcellulaire, nous avons suivi le mouvement du GAG et les produits de scission du GAG dans les cellules lymphocytes T. Donc, après 30 minutes de Liebling, la majorité du GAG et les produits associés ont été associés avec la fraction. Les fractions associées avec les marqueurs de membrane cytoplasmique et un peu de GAG a aussi été détecté dans la fraction à faible densité associée au marqueur MVB. Même si la transformation du GAG a fonctionné de façon très efficace dans les fractions PM, les fractions de la membrane cytoplasmique, c'était moins efficace dans la fraction qui était associée au marqueur MVB. 5 heures après le Liebling, le plus gros du GAG associé à la membrane cytoplasmique a été efficacement transformé et diffusé dans le substrat extracellulaire. Une chose intéressante que nous avons remarquée, c'est qu'entre 30 minutes et 2 heures, nous avons commencé à détecter l'accumulation de produits GAG matures sous forme de P24 dans la fraction associée au marqueurs multivésiculaires, probablement suite à un processus d'internalisation de la membrane cytoplasmique jusqu'au MVB. Cette accumulation de P24 n'a pas semblé migrer, remigrer vers la membrane cytoplasmique et n'a pas semblé contribuer à la diffusion de virus extracellulaires. Donc, afin d'enquêter davantage sur cette accumulation de P24 avec le temps, nous avons traité des cellules avec de la philippine, qui est un inhibiteur d'endocytose à une concentration de philippine que l'on utilisait donc l'effet tel que mesuré par l'internalisation de cholérotoxine et de transférine. Donc, dans des situations où on a traité des cellules avec de la philippine, on a complètement inhibé cette accumulation de P24 mature qui était présente avec le temps dans les fractions associées avec les corps multivésiculaires, indiquant qu'effectivement, cette accumulation était le résultat d'un processus d'intériorisation par endocytose. Nous avons de plus caractérisé cette internalisation en traitant des cellules avec de la chlorpromazine, qui est un médicament qui inhibe spécifiquement l'endocytose et n'a pas d'effet sur l'endocytose cavéolée dépendante, mesurée encore une fois par l'intériorisation de transférine marquée ou de cholérotoxine marquée. Et dans cette complétion, la chlorpromazine n'inhibait pas du tout l'accumulation de ces P24 matures dans des fractions associées au corps multivésiculaire, suggérant que l'intériorisation du GAG de la membrane cytoplasmique vers les MVB impliquait un processus d'aldocytose qui dépend de la clatérine et est peut-être médié par un processus qui dépend du cavéolé. Donc, sur la base de ces résultats, la voie par laquelle le GAG atteint la membrane cytoplasmique ou l'état d'équilibre en accumulation c'est que la majorité du GAG cible la membrane cytoplasmique ou la majorité de l'assemblage et de la libération des particules virales se produit. De façon concomitante, il y a un ciblage du GAG au corps multivésiculaire, mais l'accumulation de particules virales dans ces compartiments intracellulaires est surtout le résultat d'un processus d'intériorisation qui est indépendant du catérine. Donc, nous croyons que le niveau d'extériorisation de particules virales dans les MVB, du moins dans les cellules T92, va être le résultat d'un rapport entre l'efficacité par laquelle le virus est libéré et va aussi dépendre de la capacité des cellules à intérioriser le virus de la surface cellulaire vers les MVB. Donc, la prochaine question que nous avons posée, c'est quels sont les facteurs de cellules hôtes qui contrôlent les sites d'assemblage viral et de bourgeonnement. Alors, nous avons regardé les molécules MHC de classe 2 que l'on retrouve dans les cellules présentatrices des antigènes et leur rôle est de présenter des peptides antigènes aux cellules TCD4. Ces molécules sont des hétérodimères consistant d'une chaîne alpha et bêta et chacune de ces chaînes consiste d'un domaine extracellulaire, d'une portion transmembranaire et d'une cellule cytoplasmique. Il y a plusieurs données qui nous indiquent que les molécules MHC classe 2 interagissent avec le VIH pendant l'infection. En fait, l'HL EDR est intégré dans les particules virales telles que démontrées par le travail de Michel Tremblay à Québec. L'expression de surface est modulée, menant à une accumulation de MHC classe 2 dans les corps multivésiculaires. Mais ce qui nous a attiré l'attention est un rapport Amsterdam qui montre que les cellules MHC classe 2 peuvent provoquer la maturation de structures endogène au MVB dans un processus qui dépend de la présence de la cellule cytoplasmique dans le domaine transmembrane. Donc, Andrés Finzi et le jeune Yong Xiao ont démarré un projet pour déterminer si le MHC classe 2, les molécules, pouvaient relocaliser le HIV 1-GAG de la surface de la cellule au compartiment intracellulaire dans les cellules 293T. En utilisant des expériences d'immunocoloration, en recherchant du GAG dans des cellules qui n'exprimaient pas d'HLA-DR, l'immunocoloration était cytoplasmique et était large et diffuse. Après l'expression des molécules MHC classe 2 dans les cellules 293T, nous avons vu une relocalisation importante de GAG dans les structures ponctuées qui ressemblaient à des vésicules internes et ces vésicules pouvaient se colorer avec de HLA-DR. L'expression d'un mutant d'HLA-DR qui avait une division de la cellule cytoplasmique de la chaîne alpha et bêta qu'on appelle, et je vais référer à ce mutant comme le mutant TMTM, ce mutant ne provoquait pas du tout de relocalisation de GAG dans ses compartiments internes. Étant capable de quantifier la localisation du GAG, on a pu démontrer que presque 50% de l'HLA-DR, 50% des cellules, avaient une coloration du GAG dans ces vésicules internes, tandis que dans les cellules témoins ou les cellules mutantes, la majorité des cellules avaient la coloration diffuse et généralisée du GAG. Ensuite, on a examiné la nature du compartiment dans lequel le GAG était relocalisé en présence d'HLA-DR. Et en fait, ce compartiment correspondait au corps multivésiculaire, étant donné que ces compartiments étaient LAMP1 positif, CD63 positif et positif pour le LVPA. Ces résultats ont été confirmés par microscopie électronique qui a démontré que lorsque le HLA-DR était exprimé, les cellules montraient de grands vésicules intracellulaires dans lesquels à la fois des particules virales matures, de même que des particules virales en assemblage étaient présentes. Dans les cellules qui étaient DR négatives ou dans les cellules qui expressaient le mutant TMTM, l'assemblage et la libération étaient fortement limités, strictement limités à la membrane cytoplasmique. Tel qu'anticipé, cette relocalisation de GAG au compartiment interne en présence d'HLA-DR a provoqué une diminution de l'efficacité de libération du HLA-DR. En fait, lorsque l'HLA-DR était exprimé, nous avions une diminution d'un facteur de 3 d'efficacité de libération de VIH1, tandis que dans le mutant, il n'y avait absolument aucun effet sur la libération de particules virales, de l'efficacité de la libération de particules virales. Et finalement, nous voulions déterminer si cette relocalisation de GAG dans la présence de molécules de classe 2 faisait partie d'une voie métabolique normale de particules virales infectieuses, mais non pas un cul-de-sac où le virus n'était pas infectieux. Donc, on a analysé l'infectivité des particules virales qui s'accumulaient dans les compartiments intracellulaires en présence d'HLA-DR. Et pour y parvenir, nous avons pris les cellules qui exprimaient le DR. On leur a permis d'exprimer du virus pendant 24 heures afin d'accumuler du virus dans les compartiments internes. Et ensuite, on a traité ces cellules avec un inhibiteur de protéase pendant 24 heures pour inhiber l'infectivité de tous les virus qui étaient subséquemment produits. Après 24 heures, les cellules ont été lysées et l'infectivité a été mesurée. Dans les conditions où la lyse des cellules avait une efficacité semblable dans tous les échantillons, on a découvert que l'infectivité qui est associée aux cellules qui exprimaient le DR et qui ont été traitées avec l'inhibiteur, l'infectivité était 4 fois plus grande que dans les cellules témoins qui étaient aussi traitées. En ligne avec ces résultats, nous avons détecté une quantité accrue de P24 mature comparé aux cellules témoins. Ce qui nous dit que le HLA-DR fait la promotion de l'activation intracellulaire de particules virales qui maintiennent leur infectiosité. Donc, pour sauver du temps, je ne vous présenterai pas la conclusion de la première partie parce que je vous en ai déjà parlé. Dans la deuxième partie de nos essais, je vous ai montré que l'expression d'HLA-DR fait la promotion de l'expression des VIH1 par l'accumulation de VMIP par un processus qui se fie strictement au queue cytoplasmique alpha, des chaînes alpha et bêta. Les virions intracellulaires produits en présence d'HLA-DR demeurent stables et infectieux malgré l'environnement à pH très bas qui existe dans ces corps multivésiculaires. Ces résultats indiquent que la séquestration stable d'infection de virions infectieux dans les corps intracellulaires est simplement un autre cas de persistance du VIH. Ces résultats montrent aussi que les molécules de classe 2 peuvent faire la promotion de VIH en MVB dans comme les macrophages. Et à l'heure actuelle, nous faisons enquête de l'effet des molécules sous-régulantes MVB dans la production virale dans les macrophages primaires. Et enfin, compte tenu que ce symposium porte sur les nouvelles cibles de développement médicaments. Quelles sont les conséquences pour le développement médicaments? La formation et la séquestration de virions dans des MVB, un compartiment qui joue un rôle central dans la formation et la fonction de synapses immunologiques, va protéger le VIH contre les anticorps neutralisants et peut faciliter le transfert de virus aux cellules cibles à un point où ils sont les plus susceptibles à l'infection par le VIH. Même si ça va être très difficile d'avoir accès aux virus intracellulaires, une meilleure compréhension de l'exocytose des MVB peut suggérer des façons par lesquelles le MVB peut être empêché de libérer leur contenu ou encouragé à le livrer au lysosome où le virus va être inactivé ou dégradé. Mais compte tenu que l'exocytose MVB est une voie métabolique essentielle à la cellule, le défi va être de trouver un agent antiviral efficace qui cible spécifiquement le VIH et son interaction avec le GAG sans nuire à la circulation cellulaire normale. Et enfin, je veux remercier les gens qui ont participé dans cette étude. Dans mon laboratoire, Andrés Findi, Alexandre Ortwein, Yong Xiao et Joanne Mercier, nos collaborateurs sur le projet de classe 2, Jacques Thibodeau et Alexandre Brunet. Je veux remercier les bailleurs de fonds qui ont permis ces études depuis plusieurs années. Merci beaucoup. D'accord. Alors, il nous reste quelques questions pour le Dr Cohen. Alors, micro numéro 2. Alors, vous avez bien ciblé les différences dans la deuxième moitié du cycle, mais vous vous concentrez sur les cellules T293. Avez-vous déjà fait ça sur les cellules primaires? La raison pour laquelle on a commencé avec les cellules T293, c'était pour établir un système. À l'heure actuelle, nous étendons ces études aux lymphocytes type T et aux macrophages. Micro numéro 2. Est-ce que vous avez fait des études avec il est clair que un n'est pas impliqué dans cette relocalisation parce que même si on utilise un virus qui n'exprime pas du M, on voit quand même une relocalisation du GAG au MVB en présence d'HLA-DR. Maintenant, nous n'avons pas détecté d'interaction de GAG avec du HLA-DR. Mais le fait qu'on ne le détecte pas ne signifie pas que ça ne se produise pas, par contre. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr. Cohen. Mm.
Our third speaker.
Notre troisième conférencier est le Dr Moore. Il est un professeur d'immunologie et de microbiologie à l'Université Cornell à New York. Il est un diplômé d'Oxford. Il a reçu son bac, sa maîtrise et son doctorat de l'Université Oxford. Le Dr Moore. Est un récipiendaire d'une subvention sur l'étude des maladies infectieuses. Il a aussi un prix de mérite de l'Institut des maladies infectieuses. Le Dr Moore, aujourd'hui, va nous parler de l'inhibition d'entrée pour la lutte au virus.
Merci, je ne vous parle pas de nouvelles cibles, de nouveaux médicaments. On parle de classes existantes, des classes d'inhibiteurs, mais d'une façon non traditionnelle. Pas pour traiter l'infection, mais pour tenter de la prévenir grâce à la microbicine par voie topique. Alors, ça fait partie de la prévention, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Avec le nombre de transmissions hétérosexuelles qui se dénombre, surtout dans le monde industriel, avec 8% des nouvelles transmissions. On a besoin de quelque chose qui va bloquer la transmission vaginale, donc ça devient un besoin criant. En Afrique du Sud, il y a une femme sur quatre a le VIH avant l'âge de 22 ans, alors ça devient pas mal sérieux. Alors, les microbicides pourraient réduire la transmission et donc on aurait plus de sorts pour trouver un bon vaccin. Et ce qu'on recherche, c'est un vaccin efficace, mais ce n'est pas chose facile. Ça nous prendra encore quelques années avant d'y arriver. Alors, en attendant, on a d'autres moyens de prévention. Et surtout pour les femmes, pour pouvoir contrôler leur propre protection. Même si on connaît le concept ABC, la plupart des infections sont propagées par des rapports sexuels non protégés. Alors, ça ne viendrait pas protéger les femmes agressées sexuellement ou violées. Et on ne peut pas s'assurer que les hommes utilisent les condoms. Et les condoms, c'est un agent de contraception. Alors, on ne peut pas les utiliser lorsqu'on cherche à être enceinte. Et un microbicide pourrait combler beaucoup de lacunes si on pouvait en développer un et l'appliquer. Un microbicide est une entité chimique qui peut prévenir ou réduire la transmission du VIH lorsqu'appliqué au site d'entrée, rectal ou vaginal. C'est probable, mais pas certain qu'un vaccin efficace, un microbicide, pourrait être utilisé ou pourrait offrir une protection par voie rectale. C'est une présomption, mais c'est pas une stratégie. Ce qu'on aurait pour une voie serait testé pour l'autre voie. Un microbicide pourrait être appliqué en forme de gel, crème, suppositoire, éponge, anneau vaginal qui va graduellement libérer des ingrédients. Mais normalement, c'est un gel. Afin d'être utile, le microbicide, finalement, doit être sécuritaire, évidemment, efficace, pour des raisons évidentes, mais aussi abordable. C'est une technologie qu'on donne librement. C'est quelque chose qui coûterait que quelques cents par utilisation. Quelque chose qui coûterait 10 dollars par utilisation ne serait pas très pratique. Alors, il faut que ça soit économique. Et il faut toujours être conscient de le fait que ça soit accessible. Et il faut que ça soit acceptable. Il faut que ça soit pas, il faut pas que ça pue, il faut pas que ça soit dégoûtant. Alors ça, c'est une question de formulation, ça c'est pas de mes affaires. Moi, je vais vous parler des expériences dans le modèle avec les singes. Alors, je vais vous parler des microbicines qui agissent comme inhibiteurs d'entrée, qui sont déjà en essai clinique à titre d'antirétroviraux, car ils pourraient rencontrer et satisfaire peut-être tous ces critères. Ils pourraient être sécuritaires, parce qu'il y aurait beaucoup de profils cliniques, efficaces, que je vais vous démontrer dans le modèle que nous avons utilisé avec les singes, abordables, parce que nous parlons de drogues conventionnelles de façon générale, et acceptables à titre de formulation, donc son apparence. Alors, le concept assez simple, c'est de prévenir le VIH de pénétrer dans les cellules et pour pas rentrer dans le corps alors on empêcherait le virus, la propagation. Normalement, devrait être assez sécuritaire et abordable. Il y en a en tout cas qui devrait l'être. Et il y a une bonne preuve d'efficacité jusqu'à date, et je vais vous la démontrer. Les genres d'inhibiteurs dont nous allons parler, étudiés par mon groupe, c'est composé 1-6-7 BMS 378806, T1249, AMD 3465. Et ça, c'est pour le développement de produits. On se lance tranquillement vers les essais cliniques. Et aussi le C52L et CD4-1G2 pour des fins d'expérience. On utilise le CHIV-1C2P3 avec un virus de provocation. Et dans quelques études, on utilise le CHIV-8964, un virus AX4 avec peut-être une utilisation R5. La première molécule, l'inhibiteur CCR5 composé 1-6-7, c'était le projet de Marty Springer chez Merck, qui était développé à titre de candidat clinique avec Shearing Plough et Pfizer et les programmes vitro-viraux. Mais Merck l'avait abandonné pour développement clinique, ce qui était malheureusement pour Marty. Mais c'était bien pour nous parce que ça voulait dire qu'on pouvait avoir un CR5 inhibiteur puissant et fiable. Alors, c'est une molécule aussi bonne que rétrovirol et autres. Bristol Myers, le groupe de Richard Colonna, des inhibiteurs de liage, le BMS 378806, n'est plus développé au plan clinique car a été remplacé par de meilleurs composés. Mais ici, se lie au GP120 et inhibe le liage CD4 et d'autres changements conformationnels subséquents associés au liage co-récepteur et n'est pas restreint. Dans des études, on a utilisé un C52L inhibiteur de fusion peptine utilisé au Cornell Medical School qui est relié à Fusion. C'est un peptide, c'est Menlo qui l'avait élaboré pour que ça soit moins cher que Fuvitide. Ça bloque la fusion, ça empêche les changements conformationnels et c'est un tropisme. Depuis, nous avons travaillé avec le T1249 de Trimeris, qui était le fils de T12. C'était la prochaine étape de développement dans Fusion et Fuvitide, ce qui fonctionne de la même façon que le C52L, plus puissant in vitro et in vivo, testé en essai clinique, démontré avoir une activité antirétrovirale assez importante. Alors, il y a une bonne efficacité, mais n'est plus suggéré comme drogue antirétrovirale. Et brièvement, le Pro542, le CD4-1GG2, c'est une protéine de fusion immunoglobuline rétrovalent qui lie au GP120 et bloque l'attachement au virus au CD4. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment abordable parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel, mais c'est quand même un outil de recherche. Mais c'est en développement pour une drogue rétrovirale en phase 2. Le CXCR4, il s'agit de l'AMD 3465 de Anamed, le programme de Gary Bridges. Alors, c'est un inhibiteur spécifique qui agit seulement contre ces virus-là, semblable à des composés qu'on a déjà en essai clinique, à titre de drogue rétrovirale pour traiter le CXCR4 pour les infections et les virus. Et c'est un composé complètement crédible pour les microbécines. En fin de l'année passée, nous avons publié, je ne vous donnerai pas tous les détails de quelque chose de communication de Ron Veazey. Vous avez les titres ici. Maintenant, les virus contestés, il y a le CHIV, un modèle de singe pour amincir l'épithélium du vagin. Alors, c'est un modèle très contraignant. Alors, une dose assez élevée de virus et donc l'amincissement de l'épithélium avec la progestérone pour exacerber le risque d'infection. Donc, les témoins deviennent infectés. On peut faire les études, mais c'est quand même assez contraignant. Avec le compound 167 à 5, on a protégé 8 de 10 sur 10 Même concentration pour BMS, on a protégé 6 sur 10 avec le GP41. 3 sur 5 ont été protégés. Et contrôler au 9 sur 9 nous donne une protection statistiquement significative. Depuis, nous avons fait une étude qui n'a pas été publiée avec T1249, avec toute une variété de doses, avec des concentrations différentes pour voir où se trouve cette protection. C'est la première expérience que nous avons faite sur ce composé. On avait seulement 2 animaux par groupe, mais aucune protection à 0 ou 0.1. Mais les 2 animaux qui ont eu 1 mg, 1 ml ont été protégés. Alors c'est quelque chose qu'on peut titrer et on veut combler cette lacune pour voir quel dosage utiliser. Alors voilà, 200 micros. Alors, on a des tonnes par année. C'est une concentration tout à fait pratique pour être utilisée dans des études de microbicides. Alors, ce n'est pas une question maintenant d'abordabilité. Alors, on va raffiner le tout. On veut avoir un 650 pour une protection in vivo. On va le tester avec d'autres virus contestés, provoqués, les X4 pour voir ce qu'on devrait bloquer là-bas, mais on aimerait le tester. Et encore en combinaison avec d'autres inhibiteurs, pour des raisons que je vous expliquerai subséquemment. Et il faut développer une formulation et une stratégie de développement de produits. Ça, c'est sûr que ce n'est pas moi qui va le faire, ça va être Trimeris et les autres. Maintenant, pièce à l'appui pour les microbicides, c'est tout à fait évident. Et on ne peut pas être contre. C'est comme l'argument pour utiliser des polythérapies. On n'utilise pas des monothérapies. Et on n'utilise pas des monothérapies pour des microbicides non plus. Alors, des combinaisons d'inhibiteurs vont accroître la couverture contre des souches divergentes. Et dans le vrai monde, ou le monde réel, c'est une grande préoccupation. On réduit la probabilité de transmettre des virus qui sont résistants à un seul inhibiteur. Et en certaines circonstances, surtout avec les inhibiteurs d'entrée, peuvent générer une synergie. Je sais qu'on utilise le terme beaucoup. C'est pas de la vétivité, mais on a 2 inhibiteurs qui peuvent se renforcer l'un l'autre et réduire le composé nécessaire, alors qui vient réduire la dose. Alors, ce sont des arguments très utiles. On l'a fait dans la communication de visite. 9 sur 9 animaux témoins ont été infectés. 21 sur 28 ont reçu un inhibiteur et été protégés lorsqu'ils sont tous mis ensemble. 16 sur 20, 2 inhibiteurs étaient protégés. Et tous les 3 animaux qui ont reçu les 3 inhibiteurs étaient protégés. Alors, c'est pas parce que la protection était... On ne sait pas si la protection a été accrue avec une combinaison, parce que la protection était très bonne avec un inhibiteur. Alors, il y avait 50 animaux, on a protégé 40 dans un modèle contraignant. Alors, on peut clairement protéger les macaques. Maintenant, un microbicide ne devrait pas être quelque chose à utiliser juste avant les rapports sexuels. Si c'est par voie rectale, on aimerait quand même synchroniser. Alors, quel serait le délai d'application et le délai pour la protection? Alors, on a fait des provocations sur un certain temps. On a utilisé le composé 1,6,7. On a ajouté l'inhibiteur, puis on a remis la provocation de 5 à 12 heures. Alors, une demi-heure, on protégeait 8 sur 10, 2 heures, 2 sur 3, 6 heures. Même avec un délai de 6 heures, on protégeait 50% et un des animaux était protégé même après une période de 12 heures. Alors, c'est une bonne protection, on soupçonne, serait possible. Lorsqu'on regarde ça sur la courbe, on voit une protection sur 6 heures. On a fait moins d'animaux avec BMS 8806, la courbe est possible, mais on a quand même une bonne protection durable sur une période de 6 heures, et c'est quand même assez encourageant. On a fait une autre expérience qui n'était pas dans le papier de discussion. On voulait voir si on pouvait protéger avec plusieurs provocations. Alors, on a utilisé aux plus grandes doses, alors en combinaison triple macabre tous les jours pendant 5 jours. Et on a fait une provocation chiffre tous les jours pendant 5 jours. Alors, 5 doses de provocation sur une période de 5 jours. Évidemment, tous les témoins ont été affectés. 3 sur 5 des récipients de l'inhibiteur ont été affectés. 2 animaux ont été protégés contre 5 provocations sur 5 jours. Et c'est pas si mal vu la nature très contraignante du modèle. Alors, je trouve que c'est encourageant. Alors, si vous avez une bonne formulation, je crois qu'on aurait quelque chose de très efficace. Maintenant, on voulait voir si on pouvait bloquer CXCR4. Les virus qui sont dans le nouveau hôte avec le CCR5, mais les CCR4 peuvent être transmis, on ne voulait pas le négliger. Alors, on voulait voir si la transmission vaginale d'un CXCR4 avec un virus peut être inhibée. À tort ou à raison, et j'ai l'impression qu'on a retard, qu'on a trouvé SHIV-89-6P, car c'est grandement utilisé dans le modèle d'inoculation de vaccin. Alors, je peux voir d'autres scénarios, mais pour les macaques et chez l'humain, c'est seulement sensible au CXCR4 et pas du tout efficace ou pas du tout affecté par les inhibiteurs de CRC. Alors, PBMC, qui n'est pas toujours pertinent aux événements, aux incidents de transmission, c'est un virus X4. On ne trouvait pas de réduction de la charge virale non plus lorsqu'on a donné un CCR5 à un singe. On peut utiliser les 4, mais on pourrait possiblement in vivo utiliser CCR5. Alors, on a utilisé le AMD-3465 et essentiellement, on n'a pas réussi à être protégé avec le 3465. 8 sur 10, c'était 8 sur 9 étaient affectés, comparé au témoin 8 sur 9. Le 167, le CCR5, 3 sur 5, les deux ensemble, 1 sur 2. Alors, on n'a pas pu protéger contre l'inoculation du 4. Dans les prochaines expériences, on va voir si c'est le problème, est-ce que c'est l'inhibiteur qui ne fonctionne pas ou le virus qui ne peut pas être bloqué par un inhibiteur CXCR4. C'est un inhibiteur qui devrait fonctionner, fonctionne très bien in vitro, devrait lier le récepteur in vivo, mais la possibilité, c'est que le SHIV-89.6P utilise CCR5 et CXCR4 pour la transmission. Alors, ni le bloqueur récepteur ne fera pas le travail. On va aussi mettre à l'essai un CXCR4 beaucoup plus en utilisant un SHIV-KU1. KU1, et on a aussi des questions de formulation, d'apparence. Le SHIV-X4 peut être inhibé, peut être bloqué. On a fait BMS 8 sur 6 sur le protégé 1 sur 2, qui n'est pas significatif. C52L a protégé les deux animaux, GP41 peptide, et la combinaison, alors les quatre récipiendaires du GP41, le peptide, ont été inhibés. Alors on peut bloquer ce virus lorsqu'il y a une codépendance au plan des récepteurs. Et aussi, le CD4-GJ2 a protégé les quatre animaux avec le SHIV. Alors, on peut bloquer ce virus, mais pas avec le CXCR4, tout du moins pas pour l'instant. Une fois que ça fonctionne, on aimerait avoir une double provocation. Alors, on appliquait un virus CCR5 et un CXCR4. Dans une inoculation mixte et voir si on peut bloquer des virus tropiques très vastes. C'est ce qu'on retrouve dans le monde. C'est pas juste un virus clonique. Il y aura toujours une diversité de virus. Alors on